maintenant au Journal des Américains. Il a été présenté par Anne Verdaguet. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de l'inquiétude qui grandit aux États-Unis et en Amérique latine face à la pandémie de coronavirus qui progresse toujours. En Floride, les hôpitaux sont débordés. On ordonne à nouveau la fermeture des restaurants et des bars. Au Brésil, pays également très touché par la pandémie, le président Jair Bolsonaro, qui aurait, semble-t-il, des symptômes du Covid-19, doit être testé. Dans notre dossier du jour, on ira en Équateur, dans la région côtière d'Esmeralda, où l'ethno-éducation est pratiquée auprès des jeunes afro-équatoriens. Une éducation orale pour éviter que les traditions ne se perdent. On en parle avec Eric Sanson dans un instant. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On démarre avec vous et la revue de presse des Amériques à la une. L'état de santé du président brésilien Jair Bolsonaro qui aurait, semble-t-il, des symptômes du Covid-19.
Oui, une information qui fait la une de toute la presse brésilienne ce matin, même si c'est CNN, la chaîne américaine, qui est le premier média à l'avoir diffusé. Selon O Globo, le président, qui a toujours minimisé le nouveau coronavirus, se sentirait mal depuis samedi dernier. Il aurait de la fièvre, 38 degrés selon le quotidien, mais pas de problème pulmonaire, comme le démontrerait des radios passé ce lundi. Jair Bolsonaro a donc passé un test dans un hôpital de Brasilia dont on connaîtra les résultats ce mardi. En attendant, il prend déjà un traitement à base d'hydroxychloroquine et toutes les activités qui étaient prévues à son agenda sont suspendues, annonce la Folha de São Paulo. Le journal précise qu'en rentrant au palais présidentiel, le président, qui a pour habitude de serrer les mains et de faire des accolades, a demandé aux gens de garder cette fois leur distance.
Et cette annonce a eu un effet boule de neige, Romain, puisque l'ambassadeur américain au Brésil a, dans la foulée, annoncé qu'il allait également se faire tester.
Et pour cause, samedi dernier, Jair Bolsonaro et 5 de ses ministres se sont rendus dans la résidence de l'ambassadeur des États-Unis où ils étaient invités pour l'occasion à déjeuner pour le 4 juillet, la fête nationale américaine. Des invités et des amphitryons qui ne portaient pas de masque pour l'occasion et qui ne respectaient pas la distanciation sociale, comme le détaille le Correio Brasiliense. Todd Chapman a donc annoncé dans un communiqué qu'il allait subir également un test et qu'il se plierait au protocole suggéré par son pays.
Et puisqu'on parle de chef d'État et de tests de Covid-19, Romain, il y en a un autre qui doit se faire dépister avant de se rendre aux États-Unis, c'est le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.
Oui, le président mexicain qui est attendu demain, mercredi, pour une rencontre avec son homologue Donald Trump, une rencontre qui vise à consolider la relation commerciale entre les deux pays, mais aussi pour aborder des questions sanitaires et de sécurité, détaille le quotidien Excelsior. Et selon El Universal, les autorités américaines ont imposé aux membres de la délégation mexicaine qui se rendait à Washington de passer des tests préventifs, une obligation qui ne concernait pas Andrés Manuel López Obrador, mais à laquelle le président s'est tout de même plié. Il faut préciser que, comme aux États-Unis, l'épidémie de Covid-19 continue de progresser au Mexique.
Et justement, Romain, aux États-Unis, où on a passé le cap des 130 000 morts, la situation devient catastrophique dans plusieurs États. C'est le cas notamment en Floride.
Oui, la Floride, où plusieurs comtés de Miami ont fait marche arrière ce lundi sur le déconfinement, ordonnant à nouveau la fermeture des salles des restaurants. Ces dernières 24 heures, 24 personnes sont décédées et plus de 6 000 nouveaux cas ont été détectés, un chiffre qui porte le total à plus de 270 000 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie, rien qu'en Floride, d'après le Tampa Bay Times. Et selon les experts interrogés, la courbe devrait continuer à progresser.
Un discours bien différent de celui du gouverneur de cet État, Romain.
Oui, Ron DeSantis, qui s'est rendu hier dans le plus grand centre pour retraités de son État, estime que cette hausse est tout simplement à mettre sur le dos de l'augmentation des tests. Il ne semble pas plus s'alarmer que ça, selon le Miami Herald, qui voit tout de même un changement d'approche de la part du gouverneur, car ce dernier estimait il y a encore peu que le virus était en train de disparaître et qu'il était temps de reprendre une vie normale. Alors même s'il ne reconnaît pas l'erreur d'avoir autorisé la réouverture des commerces le 5 juin dernier, ce qui a entraîné une hausse des nouveaux cas de 42%, il admet tout de même que l'épidémie reste toujours bien en vigueur.
Et avant de se quitter, Romain, un mot de cette décision des autorités américaines de ne plus donner de visa d'étudiants à ceux qui suivront des cours en ligne.
Le gouvernement ne donnera pas de visa aux étudiants inscrits dans des programmes intégralement en ligne à l'automne et les gardes frontières ne les laisseront pas entrer sur le territoire, peut-on lire sur le communiqué de ICE, la police de l'immigration et des douanes américaines. Les étudiants qui sont déjà sur le sol américain pourraient même être expulsés, selon le quotidien USA Today, une décision critiquée par des ONG qui voient là une tentative pour poursuivre la politique visant à restreindre l'immigration légale ou illégale aux États-Unis. Une décision, rappelle le quotidien, annoncée tout juste 2 semaines après la signature par le président Donald Trump d'un décret qui suspend les visas temporaires pour les travailleurs étrangers jusqu'à la fin de l'année 2020.
Merci beaucoup Romain. Le Le Maresquet pour cette revue de presse des Amériques. Et on va parler à présent de la 23e conférence internationale sur le sida qui s'est ouverte en début de semaine en pleine pandémie de coronavirus aux États-Unis. L'événement mondial était censé réunir plus de 20 000 scientifiques, politiques et militants à San Francisco en Californie jusqu'au 10 juillet. Mais cette 23e édition est bien sûr perturbée par le coronavirus et les mesures de confinement toujours en vigueur dans cet état. Les participants se retrouvent donc sur Internet. Les débats se tiennent par visioconférence. Et dès l'ouverture, c'est l'impact du Covid-19 sur l'épidémie de sida qui était au cœur des débats et des inquiétudes. La correspondance à San Francisco d'Éric de Salve.
Director General, please go ahead.
Distanciation sociale oblige, la 23e conférence internationale sur le sida s'ouvre par une visioconférence. Derrière son écran, depuis Genève, le directeur général de l'OMS sonne d'emblée l'alerte. L'OMS est profondément inquiète de l'impact du Covid-19 sur la lutte globale contre le HIV. Notre étude montre que la pandémie réduit considérablement l'accès aux médicaments pour les malades du sida, dit l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus. En cause, les mesures de confinement qui perturbent toutes les chaînes d'approvisionnement. Selon ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé, les stocks d'antirétroviraux seront bientôt épuisés dans 73 pays. Une vingtaine sont même à quelques jours à peine d'une rupture de stock complète. C'est 8 millions de malades qui risquent bientôt de ne plus pouvoir se soigner. Cette alerte de l'OMS rejoint celle de l'ONU SIDA fin mai pour l'Afrique subsaharienne, où vivent 2/3 des malades du SIDA et où la pandémie pourrait entraîner la mort de 500 000 personnes privées de soins. Nous ne pouvons pas laisser la pandémie de Covid-19 défaire les résultats si difficilement obtenus dans la lutte contre le sida, dit le directeur de l'OMS. L'OMS qui profite donc de l'ouverture de la conférence internationale sur le sida pour appeler tous les pays à sanctuariser d'urgence le transport de médicaments antirétroviraux malgré la pandémie. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti à présent pour notre rendez-vous, comme chaque mardi, avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
À la une de l'actualité, ce mardi, on commence avec la répression et la violence employées hier pour disperser une manifestation pacifique organisée à Port-au-Prince qui visait à dénoncer une recrudescence de l'insécurité dans la capitale haïtienne.
C'est la deuxième fois en 8 jours que cela s'est produit. C'est par des tirs nourris d'armes à feu et des gaz lacrymogènes que la police a dispersé ce rassemblement devant les locaux du ministère de la Justice pour dénoncer les crimes organisés, l'impunité et la corruption. Les citoyens, répondant à l'appel du mouvement de jeunes No Pap Domi, voulaient dénoncer un État assassin qui banalise le droit à la vie. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement, on a remarqué l'écrivain bien connu Lionel Trouillot. La situation de tension qui a suivi a provoqué une perturbation au niveau de la circulation automobile et piétonnière dans la zone. Un véhicule a même été incendié le 6 juillet, il faut le rappeler, marquait par ailleurs le 2e anniversaire des violentes émeutes de 2018 contre la tentative avortée du pouvoir en place d'augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché international.
Autre sujet qui fait la une aujourd'hui, Godson, la réouverture annoncée des écoles en Haïti qui suscite quelques inquiétudes après la reprise des vols internationaux.
Réouverture annoncée pour le 10 août, ce qui, selon des organisations du secteur de l'éducation, constitue une grande imprudence, car le nouveau coronavirus est encore présent en Haïti, où peu de tests sont effectués. Le regroupement de l'éducation pour tous exprime de vives inquiétudes face à cette décision qui aurait été prise sans envisager la mise en place d'une politique de santé pour protéger les élèves et les enseignants. Les écoles publiques ne seront pas en mesure de faire respecter la distance physique entre les élèves, considère le regroupement. Déjà, les cas de contamination importée ont doublé en une semaine, passant à 100 avec la réouverture officielle mardi dernier des 2 aéroports internationaux d'Haïti.
Enfin, Godson, la question humanitaire s'aggrave avec l'épidémie de Covid-19, ce qui a poussé l'ONU à réviser son plan humanitaire pour Haïti.
Le nombre de personnes ciblées dans le plan passe de 2,1 à 3,1 millions et les besoins financiers sont passés de 253 millions de dollars à 328 millions. Voilà pourquoi le plan a été révisé selon Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint au bureau intégré de l'ONU en Haïti. Aujourd'hui, globalement, 5,1 millions d'habitants ont besoin d'assistance humanitaire contre 4,6 en février. L'appel révisé privée de l'ONU, lancée depuis 3 semaines, n'a récolté pour le moment que 10% d'engagement de la part des bailleurs de fonds internationaux.
Merci beaucoup, Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Press. Très bonne journée à vous. Et on part à présent en Équateur, dans la région côtière d'Esmeralda, qui est connue comme la province verte pour sa végétation luxuriante. C'est aussi une région pauvre, essentiellement peuplée d'afro-descendants. Face au risque d'acculturation des plus jeunes attirés par la culture occidentale, un programme d'ethno-éducation a été lancé il y a 5 ans. Il est aujourd'hui suivi par une vingtaine d'écoles et de lycées. Notre correspondant en Équateur, Eric Sanson, a visité l'un de ces centres éducatifs dans la ville d'Esmeralda.
Dans la mythologie de la région d'Esmeraldas, la Tunda est la version locale des histoires d'ogres, une vieille femme dont la venue faisait assez peur aux enfants pour leur inculquer les bonnes manières. Ces contes ayant tendance à disparaître font partie de ce patrimoine immatériel que des professeurs comme Veronica Vité souhaitent préserver. Cette enseignante trouve également que le rôle des Afro-Équatoriens n'a pas sa place légitime dans les livres d'histoire et la mémoire collective de l'Équateur.
Les livres d'histoire parlaient d'Atahualpa, de Huascar, des chefs indiens. Personne ne parlait des Noirs comme Alonso de Illescas, ce héros de la liberté afro-équatorienne. Je ne le connaissais pas à l'école.
Depuis 5 ans, le collège Walter Quiñones est pionnier de ce que les autorités appellent l'ethno-éducation, expliqué par l'enseignante Lenny Bennett Lastra.
L'ethno-éducation cherche à réaffirmer l'identité du peuple afro-équatorien et son rôle dans le développement de notre pays qui se définit comme pluriethnique et pluriculturel. Métis, indiens ou noirs, tous les peuples ont leurs coutumes. Nous avons perdu notre langue et avons été forcés d'adopter l'espagnol, mais il nous reste nos traditions orales.
Des traditions que les enseignants du collège enseignent 3 fois par semaine à des étudiants comme Brittany Bone, âgée de 19 ans, pour compléter ce que les familles font déjà naturellement.
Ce sont mes grands-parents qui m'ont parlé de leur vie d'avant, qu'ils étaient pauvres mais humbles et honnêtes, qu'ils aidaient leurs voisins, qu'ils défendaient leur culture noire et nos racines. À ceux qui me critiquent pour ma couleur de peau, je leur dis que je suis une femme noire et fière de l'être.
Une position que Brittany n'a pas toujours eue, même si les cours d'ethno-éducation complémentaires du programme normal l'ont depuis fait changer d'avis.
Avant, je me suis parfois moqué des gens de couleur car j'ai la peau claire. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était mal envers les gens de ma propre communauté et je leur demande pardon de tout mon cœur.
Cuisine, herbes médicinales, tradition orale, histoire, culture et musique, les cours d'ethno-éducation sont variés, mais l'objectif global est toujours le même, selon l'enseignante Véronique Vité.
Nous voulons que nos étudiants sachent ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Par chance, nous avons un groupe qui s'intéresse à sa culture, à l'histoire afro et souhaite en savoir toujours plus. Grâce à l'ethno-éducation, nous avons relancé l'usage du turban qui s'était perdu, mais que de nombreuses femmes ont aujourd'hui repris.
C'est notamment le cas de Nicole Rivera, une jeune fille de 14 ans qui souhaiterait que plus de ses camarades de classe s'investissent dans les cours d'ethno-éducation.
Certains jeunes s'intéressent encore à la culture afro, mais pas tous. Il y en a qui préfèrent la culture occidentale et d'autres musiques comme le reggaeton. Moi, je trouve que l'ethno-éducation, c'est super. J'ai appris à mettre un turban, à cuisiner comme nos ancêtres des plats froids comme la tampa ou le plat de poisson connu comme le tapado.
Âgée de 14 ans, Eva Pinargoté, elle, a particulièrement apprécié les cours de cuisine ancestrale.
Ils ont organisé une campagne sur les savoirs ancestraux et notamment sur la cuisine traditionnelle. On a appris notamment à cuisiner le tapado. C'est un plat que préparaient nos grands-parents à base de poisson, très nutritif, avec des protéines et du calcium.
Pour l'heure, la pandémie de Covid-19 complique un peu les cours de danse, de musique et de cuisine ancestrale. Mais les autorités éducatives attendent que soient relâchées les règles de distanciation sociale pour relancer les cours d'ethno-éducation dans plus de 20 lycées de la côte nord équatorienne. Eric Sanson, Esmeraldas, RFI.
L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Tiziana Marone. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une, plusieurs réactions aux Antilles-Guyane après la nomination de Sébastien Lecornu comme ministre des Outre-mer.
Oui, désigné hier soir lors du remaniement ministériel, le successeur d'Annick Girardin suscite scepticisme dans l'opposition. La première secrétaire de la Fédération socialiste à Martinique pointe du doigt le manque d'expérience du nouveau ministre concernant les questions liées à l'outre-mer. Béatrice Bellet, au micro Martinique la première de Guillaume Fraissini.
Monsieur Lecornu ne s'est pour l'heure pas distingué sur la gestion des affaires de l'outre-mer. Il a 34 ans et si la valeur n'attend pas le nombre des années, il faut quand même dire que ce ministère est un ministère qui mérite de la transversalité, qui mérite de l'entre-gens, qui mérite de la connaissance. Et cette connaissance, aujourd'hui, Monsieur Lecornu ne l'a pas. La politique ne va pas changer et je crois que certains et même les plus proches du gouvernement en ont fait la meilleure expérience. Et j'entends là notamment Saint-Martin ou Saint-Barthélemy à qui des promesses avaient été faites et qui n'ont jamais été tenues et qui jusqu'à aujourd'hui attendent que ces promesses soient tenues.
La nomination de Sébastien Lecornu est saluée en revanche en Guyane par le député de la seconde circonscription. Lénaïque Adam estime qu'il faut aller plus loin pour les Outre-mer pendant ces deux dernières années de mandature.
C'est une grande satisfaction puisque je connais très bien Sébastien Lecornu, il connaît la Guyane aussi. Après, au-delà de ça, je pense qu'il faut faire plus de politique. Et maintenant, je crois qu'à la fin de ce quinquennat, il faut mettre les Outre-mer au cœur de la politique du gouvernement avec beaucoup plus de considération à mon avis.
Lénaïque Adam au micro de Sébastien Laporte de Guyane la première. Direction la Martinique, la 55e édition du Tour cycliste par étapes a été annulée cette année, crise du coronavirus oblige. Les déçus sont nombreux parmi les amateurs, mais aussi parmi les commerçants qui voient généralement leur chiffre d'affaires augmenter pendant cette période. Dans le sud, à Rivière-Pilote, ville étape incontournable. Le reportage de Grégory Gabour de Martinique la première.
Pas d'arrivée le samedi matin, ni de contre-la-montre l'après-midi. L'absence de Tours cette année va priver Rivière-Pilote de l'un des événements phares de ses grandes vacances. Une perte sur le plan sportif, mais aussi sur le plan social. Le Tour constituait pour nombre de pilotins une distraction. Pour eux également, les vacances démarrent mal.
Ah oui, c'est un coffre-cœur. Ah non, ça va nous manquer. Ah non.
Je suivais tous les ans, je prenais une bonne semaine pour suivre le Tour et ça me faisait chaud au cœur.
Et puis comment ne pas évoquer les conséquences économiques de cette annulation ? Épiciers, boulangers ou encore restaurateurs, presque tous les professionnels de la place craignent le pire.
On n'a plus rien du tout, quoi. On perd de l'argent.
Beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent.
Il faut dire que certains commerçants comptaient sur ce Tour pour se refaire une santé après le confinement. Ils devront attendre encore un peu.
En bref, avant de vous quitter, en Guadeloupe, une plainte a été déposée par le centre hospitalier de Basse-Terre à l'encontre de la communauté d'agglomération Grand Sud des Caraïbes. Objet de la plainte, mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit de faire la lumière sur les récurrentes coupures d'eau qui ont un impact direct sur le fonctionnement de l'hôpital, notamment sur le traitement des malades. Et c'est la fin de cette édition, à demain.
À demain, merci à vous Tiziana Maron. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On termine en musique avec Paolo Flores et Ngouchi.
Tutando silo polo yo yo tu DJ gushikaye bwama simu kwa kutima kwa tudite mudiaye salu salu kya manga yuni vontante isi etu di angola ya lukyo mainga ya tatani mona ya kukuni mula ula. Salu salu kia, banga yuni vontati. Ishi etu di Angola, ya lukio mainga. Ya tata ni mona, ya kuku ni mula ula. Tulanduke, kumayo zongolo.
Merci d'écouter RFI. Bientôt 15h30 à Paris. Restez avec nous sur la radio du monde dans une trentaine de minutes. Le retour de l'info.